Radio Kapi. Oh, Kapi. Le cardinal Fridolin Mbongo dit avoir constaté quelques anomalies, notamment la qualité de la carte actuellement délivrée. D'après lui, cette carte est comme une copie, l'image est en noir et blanc. En effet, il s'est fait enrôler ce mardi, néanmoins il appelle la population à se faire enrôler. Et puis le conseil communal de la jeunesse de la commune de Karisimbia Goma dresse un bilan sécuritaire par illusant dans cette commune en 2022. 350 maisons cambriolées, 24 enfants kidnappés, 11 cas de fusillade, 55 personnes blessées par balles et plus de 350 cas d'incendie. Enfin, le maire sortant de la ville de Kisangani, Jean-Louis Alasso, se plaint de se voir retirer la gestion courante de cette entité par la gouverneure de province. À l'heure actuelle, il dit ne pas être en mesure de rendre compte du fonctionnement de la ville alors qu'il est censé expédier les affaires courantes. Il est notre invité dans cette édition du journal. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. L'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Mbongo, a eu sa carte de lecteur ce mardi matin. Il a été enrôlé au collège Saint-Raphaël de Kinshasa. Le cardinal dit avoir constaté quelques anomalies, notamment la qualité de la carte actuellement délivrée. On dirait une copie, l'image est en noir et blanc, contrairement à celle qu'on avait avant, s'est-il exprimé. Il appelle néanmoins la population à se faire enrôler massivement. On écoute le cardinal Fridolin Mbongo.
Si j'ai un message pour la population, c'est plutôt un message d'encouragement, de mobilisation, de sensibilisation pour que tous ceux qui ont l'âge, qui remplissent les conditions de se faire enrôler, puissent venir nombreux parce que c'est de cela que dépendra demain la qualité des élections. À partir de l'enrôlement, nous saurons par circonscription combien de sièges revient et plus on est nombreux, plus nous savons faire de bons choix lors des élections. Donc, aux uns et aux autres, c'est plutôt cette invitation à aller vous faire enregistrer, enrôler.
En effet, ouverture tardive des bureaux, défis logistiques, communication déficitaire sont autant de failles que la synergie des missions d'observation citoyenne Simocel retient pour les deux premières journées de l'opération de la révision du fichier électoral lancé le 24 décembre dernier dans la première aire opérationnelle constituée des provinces du Congo central, du Kwango, de Maindombe, de l'Équateur, du Nord et Sud d'Ubangi, de la Tchouapa et de la Mongala, ainsi que la ville-province de Kinshasa. C'est dans un communiqué daté du 26 décembre que cette plateforme fait part des observations préliminaires de cette opération. Les détails avec vous, Honoré Missenga Kalala.
Le communiqué de la CIMOCEL porte la signature de son coordonnateur national, Maître Patrick Ntambwa Ngoyi. Il met en évidence les tendances générales observées dans les centres d'identification et d'enrôlement des électeurs pendant les deux premières journées. 15 à 40 inscrits à la première journée selon les endroits, 40 à 75 à la deuxième journée selon les endroits également. Simocel note cependant, selon ce qui lui a été rapporté par exemple concernant Mongafula ici à Kinshasa, des cas de centres d'inscription qui n'ont pu imprimer leur première carte qu'au deuxième jour. D'une manière générale, la plateforme parle d'un lancement timide de l'opération de la révision du fichier électoral et défiant la programmation optimiste que la CENI a élaborée. Pas un seul cas de respect de l'heure d'ouverture au premier jour, dispatching du matériel le matin même du lancement de l'opération et dans de nombreux cas, indique Simocel, le personnel des centres d'inscription a dû lui-même prendre en charge le transport de ce matériel.
Par ailleurs, au Congo central, au quatrième jour, l'opération d'identification et enrôlement des électeurs se déroule dans un climat apaisé. Ce constat a été dégagé par le cadre de concertation de la société civile qui dit avoir mené des enquêtes à travers leurs observateurs déployés dans l'ensemble du Congo central. Dans une déclaration faite à l'issue de la réunion tenue ce mardi pour analyser les déroulements de l'opération, le cadre de concertation de la société civile du Congo central appelle la population du Congo central à ne pas prêter attention aux détracteurs du processus électoral en cours en République démocratique du Congo et à s'enrôler massivement. Déclaration lue par le président de cette structure citoyenne, Jules Benga Ndopetelo. Il est au micro de Nana Plurish Mambo.
Nous, membres des organisations de la société civile de la province du Congo central, avons retenu dans l'ensemble le premier rapport que nous venons de recevoir de la part de nos représentants et nos observateurs à travers les 10 territoires. Et les 2 villes de la province font état d'un déroulement apaisé des dites opérations durant les 2 premiers jours. Deux, en ce qui concerne la ville de Matadi, les délégués de la société civile et les observateurs déployés ayant fait la ronde à travers les 35 centres d'inscription retenus n'a identifié aucun centre fictif qui se trouverait dans une quelconque habitation. Le cadre des concertations provinciales des organisations de la société civile du Congo central demande à la population de ne pas prêter attention aux détracteurs du processus électoral en cours et l'encourage à aller se faire identifier et enrôler massivement à travers les différents centres d'inscription et d'enrôlement des 10 territoires et des 2 villes de la province du Congo central.
Des affrontements ont opposé hier encore les FARDC au M23 à Karinga et Karuli. C'est dans le groupement Roussayo, à la limite entre le parc national de Virunga et le territoire de Nyiragongo. Le porte-parole de Sokola 2 confirme cette information. Le colonel Guillaume Ndike Kaiko affirme que le M23 a tenté d'infiltrer les lignes des FARDC. Ils ont fait face à la force et à la résistance de l'armée qui les ont repoussés. Cet officier de l'armée regrette que les rebelles, qui selon lui, jouent à l'hypocrisie de ces rites, tiré de Kibumba, cherche à renforcer d'autres fronts. Les sources de la société civile de Nyiragongo indiquent de leur côté que les rebelles du M23 tentent de progresser vers Masisi. Ils seraient visibles dans environ 5 positions dans les parcs. Leur position avancée se trouverait à Kamatembo, en groupement Roussayo. On reste dans la région, à Goma. Plus de 350 maisons cambriolées par des inciviques dans les 11 quartiers de la commune de Karisimbi en 2022. 24 enfants kidnappés, 11 cas de fusillade, 55 personnes blessées par balle et plus de 350 cas d'incendie. C'est le bilan sécuritaire dans cette commune dressé par le conseil communal de la jeunesse. Cette structure de la jeunesse qui déplore ces cas exhorte les autorités urbaines à redoubler d'efforts en 2023 et mettre fin ainsi à ces actes. Elle demande aussi à la population d'accompagner les autorités dans cette démarche car, dit-elle, la recherche de la paix doit être inclusive. Claude Rougo, président du conseil communal de la jeunesse de Karisimbi, est au micro de Denise Loukesso.
C'est sous les larmes aux yeux qu'on est en train de fustiger le contexte sécuritaire actuel en commune de Karisimbi. Quand nous essayons un peu de faire le bilan de toute l'année, c'est vraiment catastrophique. Et quand nous essayons un peu de faire l'analyse autour de ces mots, ça prouve à combien de fois la sécurité n'est pas du tout garantie en commune de Karisimbi, quels que soient les efforts que les autorités sont en train de fournir. Et là, nous, en tant que conseil communal de la jeunesse, quand les petites populations sont souvent visitées par les inciviques, les gens sont emportés par les kidnappers, les incendies au jour le jour, les fusillades, les blessures par balles, on en a vraiment assez. Et là, nous, en tant que conseil communal, nous sommes en train d'exhorter les autorités à mettre toutes les batteries en marche pour que la commune de Karisimbi ait quand même la sécurité. Car la sécurité n'est pas un cadeau de la population, mais plutôt c'est de leur droit.
L'autorité urbaine qui dit attendre le rapport de cette structure promet de réagir prochainement. Autre nouvelle, dans la province de la Tchopo, ouverture ce mardi à Kisangani du forum sur l'unité, la sécurité, la paix, la cohésion et le développement de l'espace Grande Orientale. Cette messe sociopolitique réunit plus de 300 délégués issus de 4 provinces démembrées de l'ex-province orientale. Objectif, réfléchir sur le sort de l'espace Grande Orientale en ce qui concerne son développement. Les travaux placés sous la facilitation de Mgr Marcel Outembi, archevêque métropolitain de Kisangani vont se dérouler du 27 au 30 décembre courant. Un reportage de Jacques Munkokole.
Parmi les délégués figurent notamment les sénateurs, les députés, les hommes d'affaires, les enseignants et les membres de la société civile. Bref, différentes couches socio-professionnelles participent à ces assises de 4 jours, dont le théâtre et la salle des banquets de la Fourchette Boyomaise, et ce, sous la facilitation de l'archevêque de Kisangani, Mgr Marcel Outembitapa. Plusieurs thématiques seront débattues au cours de ces forums, notamment la sécurité, le développement, la coopération interprovinciale, la gouvernance, transparence et la participation. Pour le sénateur Jean Bakomito, ce forum est un grand moment d'échange où ils vont chercher à répondre à certaines questions sécuritaires et de développement de cet espace géographique de la RDC. Pour sa part, Geneviève Inagosi, présidente de la cellule de communication de ce forum, déclare que ceci est un réveil. La prise de conscience des enfants de l'espace Grand Oriental va faire en sorte que les choses changent, car, souligne-t-elle, les engagements qu'ils vont prendre au terme de ce forum ne resteront pas lettre morte. À signaler que ce forum a été officiellement ouvert par le vice-gouverneur de province, Paulin Lendongolia, Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, le commandant en ville de la police nationale congolaise rassure la population de la ville de Kindu sur leur sécurité et la sécurité de leurs biens en cette période de fin d'année. Le colonel Saïdi Madjaliwa Benoît a donné cette assurance après la parade d'hier lundi 26 décembre à la tribune centrale de Kindu. Ces derniers parlent de patrouilles nocturnes et diurnes qui sont menacées par ses troupes pour cette fin. Il a chuté en mettant en garde les enfants qui utilisent des jeux pétards. Colonel Amissi Madjaliwa Benoît est au micro de Florence Kizalunga.
Vous savez, en matière de sécurité, on ne peut pas dire qu'on peut remettre l'insécurité à zéro. On se bat pour qu'on puisse quand même diminuer à ce que la population puisse se sentir mieux sécurisée. Ce qui est vrai, qu'il y a eu pendant ces derniers jours ici une résurgence de l'insécurité dans la ville. Nous, on ne croise pas les bras. Nous travaillons pour qu'on puisse quand même essayer de mettre notre population à l'aise. Ces gens qui insécurisent notre population sont dans la même population. C'est pourquoi nous lançons ce message de dénoncer tout cas suspect pour nous permettre nous d'aller vérifier. Nous sommes en train de se battre pour que les festivités puissent se passer dans le calme, que la population puisse se sentir sécurisée quand même. Il y aura des tournées pendant la journée, il y aura des patrouilles nocturnes, motorisées, pédestres, pour que la population puisse se sentir quand même sécurisée. Nous avons constaté qu'à chaque fin de l'année, il y a des enfants qui s'en donnent à tirer des pétards qui ont des coups semblables aux coups des armes. Ces coups-là, insécurisés aussi la population. C'est pourquoi j'appelle tous parents d'encadrer les enfants, parce que l'enfant qui sera surpris sera interpellé par la police.
À l'occasion de cette parade, la police du district ville de Kindu a été sensibilisée sur la prévention contre COVID-19 par la DPS avec l'appui de l'OMS. Ceux qui hésitaient ont accepté de se faire vacciner. Et puis, plus de 140 enfants de l'orphelinat Saint-Kizito de Bounia, chef-lieu de l'Ituri, vivent dans des conditions difficiles. Leur espace de vie est étroit. Il manque aussi de médicaments, des laits, notamment pour les nourrissons dont le Benjamin a moins d'une semaine. L'alerte est de la responsable de l'orphelinat qui l'a dit ce lundi en marge des préparatifs de la fête de Nouvel An. Elle appelle le gouvernement à réagir tout en pensant à l'avenir de ses enfants, mais aussi à accentuer les efforts pour restaurer la paix dans la province. Reportage Ezekiel Mouzalia.
L'orphelinat Saint-Kizito, situé au quartier Muzipela, à la périphérie de la ville de Bounia, compte 5 pavillons où sont placés des lits interposés et des berceaux pour ses enfants dont l'âge varie autour des 0 à 5 ans. 4 catégories d'enfants se trouvent sous la responsabilité des sœurs de la charité maternelle. Il s'agit par exemple des enfants dont tous les parents ont été exécutés pendant les atrocités de la milice Codeco à Bambou, Kobou et Fataki dans le territoire de Djougou, ainsi que dans la chefferie de Walesse et Vonkutu dans le territoire d'Irumu où les rebelles des ADEV sont actifs, mais aussi des enfants dont les mamans décédées lors de l'accouchement, ainsi que des celles affectées par des troubles mentaux. Selon la sœur Immaculée Mandessi, responsable de l'orphelinat Saint-Kizito, plusieurs enfants dorment à même le sol sur des nattes, faute d'espace, ce qui, indique-t-elle, les expose à des maladies.
Je suis en train de dire que la guerre cesse. Si nous avons un nombre élevé d'enfants comme ça, c'est à cause de la guerre. Beaucoup de femmes meurent, des enfants sont en train d'être ramassés dans la rue. Avant, il n'y avait pas un si grand nombre d'enfants à l'orphelinat. Je demande au gouvernement de nous donner la paix.
Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Afrique du Sud, deux adolescents noirs ont été agressés par des adultes blancs le jour de Noël pour avoir voulu utiliser la piscine d'un village vacances où ils résidaient en banlieue de Bloemfontein, au centre du pays. Une agression filmée et qui a depuis provoqué beaucoup de réactions. Plus de 30 ans après la fin de l'apartheid, les tensions raciales n'ont pas encore complètement disparu en Afrique du Sud. Une enquête a été ouverte par la police locale pour déterminer les circonstances exactes de l'agression. Le président président Cyril Ramaphosa a lui aussi condamné l'agression dans un communiqué ce mardi matin et a appelé tous les Sud-Africains à s'élever contre de telles attaques, ajoutant que le racisme n'est pas un problème qui devrait être combattu uniquement par les Noirs.
L'invité.
Dans la province de la Tchopo, le maire sortant de la ville de Kisangani se plaint de se voir retirer la gestion courante de cette entité par la gouverneure de province au profit de son adjointe, bien que maintenue par l'ordonnance présidentielle. Jean-Louis Alasso qualifie cela d'un coup d'état administratif parce qu'il n'est pas encore notifié par le ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, dit-il, il n'est pas en mesure de rendre compte du fonctionnement de la ville alors qu'il est censé expédier les affaires courantes. Il est notre invité dans cette édition du journal. Il s'entretient ici avec Jacques Moukongolé. Suivez.
Jean-Louis Alasso, bonjour.
Bonjour.
À quelques jours, si pas deux semaines de votre départ de l'hôtel de ville, dans quel état d'esprit gérez-vous cette transition dans la ville de Kisangani?
Oui, lorsque nous avons suivi l'ordonnance présidentielle nommant des nouveaux animateurs des entités territoriales, nous tous nous sommes dit, bon voilà, nous sommes quand même arrivés à la fin de notre mandat. Nous étions dans la grande joie de constater que nous sommes entrés par la grande porte et nous sortons par la grande porte. Mais malheureusement, ce qui se passe maintenant ne nous arrange pas, étant donné qu'on nous a pratiquement arraché la gestion, alors que nous sommes en train de gérer les affaires courantes de la ville.
Qui vous a arraché la gestion alors que vous n'êtes pas encore notifié officiellement par le ministre de l'Intérieur?
Oui, c'est à partir de... d'un document qui a été signé par Madame le gouverneur. Elle a signé un document où elle a affecté des gens au marché. Et puis, dans le même ordre d'idée, comme je l'ai dit tantôt, on a remis la gestion de la ville à mon adjointe, qui est aussi sortante, même si elle pourra reprendre. Mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Nous sommes en train d'attendre la notification qui doit venir de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, jusqu'à présent. Mais nous ne comprenons pas comment, ici à Kisangani, on nous a arraché la gestion de la ville. Non, ça c'est ce que je peux qualifier d'un coup d'état administratif. Parce que je dois rendre compte à la fin. Et voyez aujourd'hui, si la remise et reprise intervenait aujourd'hui, qu'est-ce que moi je vais dire, par exemple, en rapport avec la sécurité, en rapport avec les finances, en rapport avec le patrimoine de la ville, je n'en sais rien. Pourquoi je qualifie ça d'un coup d'état comme ça?
Avez-vous pris contact avec l'autorité provinciale pour savoir un peu la motivation, les raisons profondes de sa décision?
Bon, l'autorité provinciale n'est pas ici. Nous avons même tenté d'atteindre ses services, mais qui ne veulent pas nous recevoir.
Alors, que faites-vous pendant cette période, puisque la gestion vous a été retirée au profit de votre adjointe?
Vous savez, lorsque vous êtes nommé quelque part, vous devez répondre aux obligations professionnelles jusqu'à la fin. C'est pourquoi je ne me décourage pas, j'arrive chaque jour au bureau et je suis en train d'expédier des affaires courantes. Il y a certains documents qui arrivent chez moi, les autres n'arrivent pas. Bon, toutes les invitations lancées au maire de la ville sont représentées par des tierces personnes. Je ne comprends pas, c'est vraiment désagréable.
Mais monsieur le maire, est-ce que le document signé par l'autorité provinciale n'est pas une façon de mettre des garde-fous pour éviter une gestion entre guillemets un peu désordonnée, une gestion catastrophique pendant cette période de transition?
Non, je pense que c'est un document qui a fait avec une mauvaise intention, parce que nous avons les garde-fous dans le message officiel du VPM où le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, où il nous parle comment nous devons nous comporter pendant cette période. Donc tous les garde-fous sont là, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on doit suivre après tout? Nous sommes dans un état de droit.
Qu'est-ce qui stipule le message du VPM au sujet de la gestion pendant cette période transitoire?
Oui, le message du VPM est bien clair. Dans ce message, on demande que nous ne puissions pas sortir des fonds, par exemple des banques. Dans ce message, on nous demande d'engager des dépenses ordinaires pour le bon fonctionnement de l'entité. Dans ce message, on nous demande de ne pas sortir des documents. Voilà l'essentiel du message du VPM. Nous devions les respecter, mais malheureusement, il y a pire que je peux qualifier même d'épistémologique.
Alors, on est à la fin de l'année, monsieur le maire de la ville. D'ici là, vous serez peut-être notifié par le ministre de l'Intérieur. Vous allez quitter l'hôtel de ville. Quel message allez-vous adresser à la population en ces moments?
En cette période de festivités, j'ai un seul message à lancer à la population burmaise. Vous savez que la ville de Kisangani est comptée parmi les villes où il y a la paix, les villes où on ne dérange pas tellement les gens. Je demande que les festivités se passent dans un climat serein. Je demande que tout le monde puisse faire en sorte que la paix puisse régner et surtout la vigilance, parce que nous ne pouvons pas oublier que nous sommes voisins aux provinces sous l'état de siège.
Merci beaucoup, monsieur le maire.
Merci bien.
Voilà, c'est la fin de cette édition mise en onde par Mimi Kindou. Merci à toute l'équipe de la rédaction sous la coordination de Kelin Kouté et la supervision de Martin Sebou-Jangoué. Merci également à vous pour nous avoir suivis.